J'ai demandé aux différents orateurs de venir autour de la table pour pouvoir répondre désormais donc, à vos questions, à vos demandes de précision, voire même d'élargir la discussion au-delà de ce qui a été présenté à l'instant. Et voilà, nous sommes donc à votre disposition. Si on peut peut-être passer les micros.
C'est bon, hein.
Très bien.
Bonjour.
Oups.
Du médecin. Donc, le problème pour le moment, il n'y a pas vraiment de conditions de bonne pratique faites par la chaise qui y a l'air, j'ai l'impression, corrigez-moi, mais un peu circonspect vis-à-vis de cette technique. Est-ce que vous utilisez plus comme façon finalement de sauver la ventilation auto-asservie suite aux résultats de sa recherche?
Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette étude. Je laisserai le micro à mes collègues, bien sûr. Notre objectif, il est double. Il est avant tout de pouvoir traiter des patients. Je pense que c'est vraiment ce qui nous semble le plus important aujourd'hui. On a vu à travers ce qui a été présenté ce matin que ce type de patient, lorsqu'il n'est pas traité par ventilation auto-asservie, eh bien, soit il n'y a aucune possibilité thérapeutique, soit il existe des thérapeutiques qui n'ont pas montré qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité ou qui n'ont pas été efficaces. Et donc pour l'ensemble du conseil scientifique autour de cette étude, l'intérêt de cet observatoire, c'est de pouvoir confirmer que ce type de patient aura la possibilité d'être traité efficacement. Enfin, si vous voulez intervenir pour compléter.
Je pense que le terme « sauver cette ventilation » est... Ce n'est pas sauver cette ventilation notre objectif. Parce que la formulation sous-entendrait que c'est la technique qu'on veut sauver. Ce n'est pas la technique qu'on veut sauver. C'est la... Comme l'a souligné Jean-Claude, la prise en charge de patients qui sont symptomatiques. Et qui... si l'on ne corrige pas les apnées du sommeil, ils restent symptomatiques. Avec, comme l'a expliqué aussi Carole, l'a démontré Carole, et puis comme l'a démontré Jean-Marc, c'est des patients qui vont avoir un impact pronostique pour l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. C'est des patients qui sont insomniaques la nuit et somnolents dans la journée. Donc il y a toute une cohorte de symptômes qui persistent tant que le syndrome d'apnée du sommeil n'est pas traité. Donc un double objectif à court terme qui est la correction symptomatique et à long terme la correction pronostique. Et aujourd'hui, les études dont on dispose montrent la supériorité de ce mode ventilatoire par rapport à la pression positive continue. Donc il ne s'agit pas de sauver une modalité de thérapeutique, il s'agit de prendre bien en charge nos patients et donc d'avoir une démarche scientifique, rigoureuse. Non, ben voilà, on va avoir un observatoire qui, sur un certain nombre de centres, va être exhaustif, va nous permettre de mieux caractériser les patients concernés, pour pouvoir aboutir après à des études randomisées qui permettent de définir sur des critères de jugement plus durs l'intérêt du traitement du syndrome d'apnée du sommeil central.
Au niveau du financement de cette étude, vous avez un financement public?
Alors, le financement de cette étude, et ça a été totalement transparent vis-à-vis de l'HAS, nous est apporté par l'intermédiaire des constructeurs. Donc effectivement, on peut tout à fait comprendre votre question par rapport à l'intérêt de ces constructeurs. Mais je pense qu'il faut considérer aujourd'hui deux choses. La première chose, c'est que ces constructeurs, qui initialement ou antérieurement ou dans le passé, auraient pu être considérés comme des gens opposés les uns aux autres, incapables de pouvoir élaborer quelque chose de scientifique, ont été solidaires dans cette démarche et l'ont fait véritablement sur un mode de mécénat scientifique, c'est-à-dire se donner la possibilité d'apporter une modalité thérapeutique à des patients. Donc ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que nous n'aurions jamais eu, et nous avons fait plusieurs démarches dans ce sens, la possibilité d'avoir un tel financement par l'intermédiaire des démarches habituelles, de protocoles d'hospitalisation, de PHRC, ou éventuellement de protocoles qui sont donnés par la NSM actuellement, nous n'aurions jamais eu la possibilité d'avoir un tel financement, et que c'est une opportunité forte d'un travail collaboratif avec ces sociétés, avec ces compagnies, qui nous ont aidés depuis le début, non seulement à nous retrouver, à élaborer ce travail, cet observatoire, mais aussi à travailler ensemble. Ces trois sociétés savantes qui se sont retrouvées autour de cette pathologie l'ont été en grande partie grâce aussi aux modalités logistiques qui ont été mises à notre disposition. Donc je pense qu'il faut, à un moment donné, bien sûr, comme l'a souligné tout à l'heure Marie-Pierre Dortot, il y a des liens d'intérêt qui ne sont pas obligatoirement des conflits et qui doivent permettre, au contraire, de faire avancer les choses quand on voit qu'on n'a pas la possibilité de le faire d'une autre manière.
Ce que je voudrais ajouter, pardon Jean-Marc, je te coupe la parole. Je crois qu'il y a deux éléments, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, le financement est par les trois constructeurs qui fabriquent ce type de matériel. Comme elle vient de le dire, et pardon de le paraphraser, mais c'est important de c'est la pédagogie de la répétition. Les trois constructeurs sont partenaires sur ce projet et c'est fait en toute transparence vis-à-vis de la HAS. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour obtenir un financement institutionnel type programme hospitalier de recherche clinique, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, hein, puisque le dernier PHRC que nous avons obtenu sur fibrillation atriale et prise en charge du SAS, et l'impact de la prise en charge du SAS sur la fibrillation atriale, c'est un dossier qui nous a pris 4 ans pour obtenir un financement. Là, on est dans des besoin de délais courts, puisque comme l'a souligné Jean-Claude et Carole, il y a actuellement 30 000 patients qui sont traités par VA hors critères Servet-Chef. Il ne faut pas que ces patients se retrouvent désappareillés, faute d'avoir un trou. Et donc l'observatoire nous permet de combler ce délai. Comme l'a souligné Jean-Claude, au bout d'un an de fonctionnement de l'observatoire, nous aurons suffisamment de données pour asseoir une ou plusieurs études randomisées. Et pour ces études randomisées, nous nous tournerons vers des financements institutionnels, type le PHRC, CRC, enfin tous les financements qu'on connaît. Pardon, Edith.
Non, mais ça, je voulais aller un peu dans le même sens que tu viens de dire. Je trouve passionnant de mettre en place un registre, parce que ça permet de répondre à un problème éthique. Vous avez vu, il y a beaucoup de patients qui sont concernés par cela, et c'est un vrai défi actuellement d'approcher des indications scientifiques par des registres bien conduits, hein, de façon à éviter des problèmes éthiques qui peuvent parfois survenir sur des études randomisées. Et c'est pour ça que je suis, moi, très intéressé dans ce registre par le plan éthique. Vous avez tous entendu parler des big data, on n'est pas dans des big data, mais c'est en tout cas un défi de la société d'utiliser les données de santé pour obtenir rapidement des réponses à des questions scientifiques et peut-être passer parfois sans les études randomisées qui ont des problèmes éthiques qui peuvent être parfois soulevés. Donc ça m'intéresse beaucoup qu'on travaille sur ce registre bien conduit. Et je remercie encore les constructeurs de nous avoir aidés là-dessus.
Je voudrais rebondir sur la notion de registre. C'est l'étude randomisée, c'est le graal de la preuve scientifique. Néanmoins, ces limites sont connues de tous les investigateurs qui ont l'habitude de manier les études randomisées. Et elles ont été soulignées dans des publications relativement récentes dans le New England, parce que ce sont des études qui hyper-sélectionne les patients. Dire que le patient qui est inclus dans une étude randomisée, c'est pas n'importe quel patient. C'est un patient qui accepte de se plier au nombre de visites qu'on lui impose, qui est quand même assez compliant au processus, au suivi, aux prises de ses médicaments, ou l'utilisation des dispositifs, etc. Donc c'est pas un patient représentatif. Et puis pendant toute la durée de l'étude randomisée, c'est une boîte noire, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut attendre, et vous avez vu pour Servet-Chef, c'est une étude qui a duré 8 ans, on a dû attendre 8 ans avant de savoir qu'on était en fait délétère pour les patients. Et donc finalement, le constat est de dire l'étude randomisée, c'est certes le Graal, le gold standard, et en même temps, c'est des études qui sont longues, qui coûtent très cher, et qui ont en fait une validité externe faible. C'est-à-dire que, comme on l'a souligné, les résultats de l'étude randomisée ne s'appliquent qu'aux patients inclus dans l'étude randomisée, qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble des patients. Et ça a été... alors que l'intérêt d'un registre, c'est qu'on inclut les patients de la vie de tous les jours, que les patients sont très bien caractérisés, et qu'ensuite, ces patients étant bien caractérisés, on les a sous la main pour les inclure dans les études randomisées, ce qu'on appelle les Nested Randomized Clinical Trial, qui est la technologie d'investigation clinique, qui est la technologie, la rupture technologique qui apparaît ces dernières années, c'est à souligner dans un New England en 2013.